18h. Le journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Heureuse de vous retrouver pour cette dernière édition de ce mardi 16 juillet 2024 sur Radio de la Paix. À la une de ce 18h, on parle de l'appel à la coalition des partis d'opposition pour renverser le RHDP à la présidentielle de 2025. Le Front populaire ivoirien salue cette récente invitation de Laurent Gbagbo. Vous entendrez le vice-président du parti chargé des questions électorales, Kwaku Kra, à l'entame de ce journal. Formation professionnelle, l'Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP, a ouvert ses portes hier lundi à la population afin de lui faire connaître ses prérogatives. Et puis dans l'actualité internationale, au Mali, les partis politiques boycottent les échanges avec les autorités de la transition. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Front populaire ivoirien salue le récent appel de Laurent Gbagbo à l'union de l'opposition et s'y dit prêt, selon le vice-président du FPI chargé des questions électorales, Kwaku Kra, qu'on écoute.
Nous avons entendu cet appel du président Laurent Gbagbo et pour nous, c'est une avancée notable. Ça a toujours été un souhait que les frères d'hier puissent se retrouver un jour. Et si le président Laurent Gbagbo a compris la nécessité de ce rassemblement en invitant tous les partis de l'opposition à le rejoindre, je pense que ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose.
Alors, certaines voix disent que c'est impossible que le FPI de Pascal Afinguessan et le PPACI de Laurent Gbagbo se retrouvent aujourd'hui.
Non. Ce n'est pas impossible, dans la mesure où le président Pascal Afinguessan, dont je suis vice-président, a toujours œuvré pour le rassemblement, pour l'unité avec le président Laurent Gbagbo. C'est la même famille. C'est une occasion, c'est une opportunité pour nous, dans la mesure où, pour gagner le pouvoir d'État, il faut rassembler plusieurs organisations. Donc cet appel est une occasion avec Laurent Gbagbo lui-même pour que ensemble nous envisageons les modalités pratiques de cette victoire en 2025.
Joint par Francis Cassi, le vice-président du FPI, le Front populaire ivoirien, chargé des questions électorales, Kwaku Kra, réagissait à l'appel à l'union de l'opposition lancé par Laurent Gbagbo dimanche dernier lors d'un meeting à Bonoua. Autre sujet avec cette fois l'identification, voilà, la modernisation et la sécurisation des services d'état civil et d'identification. À ce sujet, le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI, AGO, Christian Kodja, était face à la presse hier lundi dans la commune de Marcory. On en sait un peu plus dans ce compte-rendu de Jean-Mélène Bitti.
Face à la presse, Ago Christian Kodja, directeur général de l'ONESI, a indiqué que cette réforme obéit à un constat.
L'état civil est en difficulté parce que basé sur des moyens rudimentaires, des registres, des papiers, et n'était pas centralisé. C'était la possibilité aussi non seulement de la fraude, mais aussi des difficultés pour l'administration de mettre à la disposition des citoyens les documents avec une célérité plus accrue et une sécurité dans les documents. Donc à partir de ce constat, il était question maintenant de faire une identité basée sur un registre national des personnes physiques, sur l'état civil, mais qui maintenant s'adosse à la biométrie avec le NNI.
Que gagne l'administration ivoirienne avec cette réforme, Ago Christian Kodja?
Ça va permettre aux administrations de procéder maintenant à la dématérialisation de tous les processus administratifs que le citoyen doit effectuer. Donc un gain de temps, économie de ressources et sécurité et fiabilité.
Sur la fiabilité de la carte nationale d'identité ivoirienne, Ago Christian Kodja est formelle. Elle fait partie des meilleures au monde.
Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, la carte nationale d'identité est aux standards internationaux et fait partie des cartes les plus sécurisées au monde. Et respecte tous ces normes parce qu'il faut aussi ne pas travailler en vase clos. Il y a les questions d'interopérabilité. Donc, nos documents d'identité ne circulent pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que nous puissions respecter les normes internationales.
Le directeur général de l'ONESI est revenu sur l'objectif à court terme pour son institution.
Notre chantier actuellement, c'est mettre en place un système d'identification des personnes sécurisé et fiable qui confère à chaque individu une et une seule identité.
Il faut noter que cette campagne de numérisation des services d'état civil va s'étendre dès la semaine prochaine à toutes les régions de la Côte d'Ivoire.
Et puis le directeur général de l'ONESI, Yago Christian Kodia, qui était face à la presse, en a profité pour expliquer le processus d'inscription sur le registre national des personnes physiques RNPP, qui se compose en trois volets, à savoir l'identité, l'état civil et la gestion des flux migratoires. On écoute donc le directeur de l'ONESI, Yago Christian Kodia.
Nous prenons les photographies des différents registres qui sont là. Ensuite, nous passons un processus d'indexation pour qu'on puisse les retrouver de façon rapide et automatique. Cette action se poursuit. En même temps que nous installons le logiciel, nous sommes en train maintenant de préparer l'administration. On fait en sorte que les nouveaux entrants rentrent directement dans le RNPP. Donc, les nouvelles naissances sont captées automatiquement. Mais ensuite, ceux qui sont nés avant, on prend ces registres-là et on les numérise. C'est la raison pour laquelle, quand on ne vous retrouve pas dans un registre, par exemple, la loi vous permet d'être inscrit dans ce registre à travers la loi spéciale. Donc, la numérisation est vraiment la base du travail que nous faisons pour ce que j'appelle l'historique. Et on va le faire pour tous les centres d'état civil qui existent en Côte d'Ivoire. Un exemple concret, la sous-préfecture de Bassam ne produit plus d'actes, mais avait produit des actes avant que la mairie n'arrive. Mais néanmoins, on a numérisé tous les actes qui sont à la sous-préfecture de Bassam, parce que si votre extrait date de naissance a été fait à la sous-préfecture, c'est là-bas qu'il a été créé. Donc on est dans vraiment une grande politique de numérisation qui va s'accentuer le mois prochain, qui va prendre tout le territoire national. Nous avons reçu une subvention pour le faire. On va le faire en même temps pour finir définitivement avec ces cas de registre manquants, disparus ou qu'on ne retrouve pas.
À l'instant, Yago Christian Kodia, il est le directeur général de l'ONESI, dans des propos recueillis par Jean-Mélène Bitti. Formation professionnelle, l'Agence nationale de la formation professionnelle AGFOP a ouvert ses portes au grand public hier lundi à son siège à Abidjan. Marc Horizon 4, c'était à la faveur de la 10e journée mondiale des compétences des jeunes initiée par le système des Nations Unies. Sur les objectifs de cette journée, portes ouvertes et les offres de formation, écoutons les explications de la directrice générale de l'AGFOP, Caritia Koulibaly de Medeiros.
Alors, nous sommes le 15 juillet et depuis 2014, le système des Nations Unies a instauré cette journée comme étant la journée mondiale des compétences des jeunes. Nous avons tenu donc à célébrer cette journée pour la 10e édition et nous en avons profité pour ouvrir nos portes à tout le public, à tous les jeunes, à tous les partenaires pour mieux faire connaître l'AGFOP qui est vraiment un instrument à leur disposition pour le développement des compétences. On a présenté donc au public nos différentes offres, à savoir des offres de formation en formation par apprentissage, c'est-à-dire une formation duale 75% en entreprise, 25% théorique, des formations qualifiantes de courte durée, des formations en entrepreneuriat, parce que l'AGFOP a été créée en 1992, il y a 32 ans donc, pour pouvoir permettre de contribuer à résorber l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Donc ces formations que nous proposons viennent en complément de ce qui se fait déjà dans la formation initiale et donc nous souhaitons que vous puissiez être le porte-voix de l'AGFOP pour diffuser cette information-là partout, ici à Abidjan, à l'intérieur du pays où l'AGFOP a 15 représentations et pour lesquelles nous aurons 7 nouvelles représentations d'ici à la fin de l'année. L'objectif étant d'être représenté dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire.
Vous écoutiez la directrice générale de l'AGFOP, Caritia Koulibaly de Medeiros, au micro de Jean-Claude Mabéa. Rappelons que l'AGFOP est l'Agence nationale de la formation professionnelle. On parle à présent de désinformation et c'est dérivé avec notamment la notion ou néologisme de sorcier du numérique, qui est toute personne diffusant des fausses informations à des fins malveillantes. Ce terme sorcier du numérique a été défini au cours d'un panel organisé par la société civile Africanisme hier lundi sous le thème « Tous responsables, stop aux sorciers numériques ». Et au cours de ce panel, les populations ont été invitées à vérifier toute information avant de la partager. C'est ce que nous rapporte notre reporter sur place, Christelle Yessot.
Ce panel a été l'occasion de relever les différents types de fake news existants. Méliane Cuny, journaliste blogueuse.
Lorsqu'on parle de fake news, c'est une information mensongère délivrée dans le but de manipuler ou tromper un auditoire. La désinformation, c'est une information fausse et elle vise à nuire. La mésinformation, elle est fausse, mais elle n'est pas délibérément créée pour nuire. Ensuite, on a la malinformation. Elle est basée sur la réalité, mais utilisée aussi pour pour nuire.
Les auteurs des fake news sont dénommés sorciers du numérique, un terme que nous explique l'activiste web Sherif Tal.
Ce sont des personnes qui s'adonnent aux fake news, aux informations non crédibles, non vérifiées, non sourcées.
Selon lui, plusieurs raisons sous-tendent la diffusion de fausses informations.
Depuis la monétisation de certaines pages, ces personnes marquent plus de contenu pour se faire rémunérer que de contenu pour informer l'opinion publique. Ils préfèrent lancer des fausses informations sur même des personnalités pour être suivis que de parler des vraies informations.
Les panélistes partagent quelques astuces pour vaincre les fake news.
Je me posais la question, lorsque je partage le contenu, quel est l'impact que je recherche et quel est l'impact que ce contenu aura sur les personnes et sur mon entourage?
Le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est d'essayer de sourcer son information. Est-ce que l'information a été partagée par des sources crédibles, c'est-à-dire journalistiques, ou par des personnes censées et crédibles qui relaient des informations?
Ce panel premier du genre est une initiative de la société civile Africanisme.
Mettons le cap sur la région du Bunkani où pour la mise à échelle du projet Dépôt CI, le programme de production alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire va distribuer 150 tonnes d'engrais MPK et durée aux producteurs de vivriers de la région. Financé par la BAD, la Banque africaine de développement et le Japon, ce projet vise à booster la production agricole dans cette région. C'est ce que nous apprend de Bouna, Jérôme Kouassi, notre correspondant régional.
L'objectif du programme de production alimentaire d'urgence en Côte d'Ivoire a été clairement et largement expliqué aux producteurs concernés par Kona Kwadio Lucien, le directeur régional de l'agriculture, du développement rural et des productions vivrières du Bunkani.
Et donc, nous voulons vous encourager afin que vous puissiez utiliser ces engrais-là dans vos champs. Notre objectif, c'est de parvenir à la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, on ne doit pas dépendre de quelqu'un. Nous devons produire et s'autosuffire. C'est-à-dire, notre production local doit nous permettre de manger à notre faim.
Le chef de zone Anader Bouna a mis en garde les producteurs bénéficiaires du programme contre tout coulage de ces intrants estampillés qui se retrouvent très souvent dans les magasins du marché. Sommet dommé intransigeant.
Je vais vous informer que ces engrais sont estampillés. Si vous les amenez sur le marché, celui qu'on a attrapé en train de vendre cet engrais-là, il est responsable. Ça a été financé par la BAD, ça veut dire que tous les pays africains et le Japon. Donc c'est fait pour être utilisé. Gardez-vous de mettre ça sur le marché parce que si vous mettez sur le marché qu'on vous attrape, vous allez faire la prison. Donc je voudrais vraiment une fois de plus vous inviter à utiliser ces engrais à bon escient. Nos services se tiennent à vos côtés en ce qui concerne les formations, en ce qui concerne l'encadrement. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous appeler.
La région de Bouna est desservie par deux plans d'eau riches en bas-fonds fertiles, des bassins versants des fleuves Komoué et Volta Noir. Mais cette région pôle agricole possède peu de retenue d'eau pour une production vivrière durable et à toute saison face au réchauffement climatique. Jérôme Kwasi Krou de Bouna, Radio de la Paix.
Dans l'actualité, hors de nos frontières, ce mardi au Mali, les partis politiques boycottent les échanges avec les autorités de la transition. La semaine dernière, Bamako a levé la suspension des activités politiques des partis et associations qui étaient imposées depuis le mois d'avril. Et dans la foulée, l'autorité dite indépendante de gestion des élections a convié le 15 juillet dernier les partis et les organisations de la société civile à une réunion censée relancer le dialogue. Et donc, les partis ont participé à cette rencontre, mais ont de manière quasi unanime décidé de boycotter les échanges, regroupés donc au sein de la déclaration du 31 mars pour exiger l'organisation d'élections et la fin de la période de la transition. Ils ont au préalable demandé la libération de leurs 11 camarades anciens ministres et dirigeants de partis arrêtés le 20 juin dernier lors d'une réunion. Et ailleurs dans le monde, le président français a accepté ce mardi 16 juillet la démission du Premier ministre Gabriel Attal et de tout son gouvernement ce mardi soir. Le Premier ministre a quant à lui garanti que son gouvernement assurera jusqu'au bout la continuité de l'État, notamment en vue des Jeux Olympiques. Néanmoins, Gabriel Attal doit s'exprimer à la télévision ce soir à l'issue de la décision d'Emmanuel Macron. Et c'est cette information qui met un terme à notre édition, dont voici le rappel des titres. Appel à la coalition des partis d'opposition pour renverser le RHDP à la présidentielle de 2025. Le Front populaire ivoirien salue ce récent appel de Laurent Gbagbo. Parlons de formation professionnelle. L'Agence nationale de la formation professionnelle a ouvert ses portes hier lundi à la population afin de lui faire connaître ses prérogatives. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio de la Paix. Tout de suite, votre magazine Mon droit au quotidien avec Aoussi Poutin.